Nous avions vu, donc la dernière fois, nous avions achevé de voir la création du monde invisible. Nous professons dans le credo que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Par le ciel, on n'entend pas le ciel qu'on peut voir, qui appartient à l'univers, mais on entend bien sûr le monde invisible, le monde des anges dont nous avons parlé, dont nous avons achevé de parler la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Donc nous reprenons notre catéchisme pour ceux qui ont l'édition verte, c'est à la page 100. Pour les autres, je vous laisse chercher. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la question de la création de l'homme tel qu'il était au commencement, avant de voir ce qu'il va devenir après ce tristement fameux péché originel. Quelle est la créature la plus noble que Dieu ait mise sur la terre ? J'insiste sur le fait que le mot noble qualifie la bonté d'un être qui a une valeur en lui-même. On parle d'un bois noble, indépendamment de l'usage qu'on va en avoir, pour dire que voilà, le chêne, c'est un bois noble qui a une valeur, indépendamment des meubles à quoi il peut servir. Eh bien, la créature la plus noble, donc la meilleure qui soit sur cette terre, eh bien, c'est l'homme. Voyez. Le catéchisme du pape Saint-Pédis ne dit pas ce que dira plus tard le dernier concile du Vatican, il ne dit pas que l'homme a été créé pour lui-même. Ça permettrait de comprendre que l'homme serait la fin de la création. Et l'homme, on l'a bien vu, n'est pas le but de la création, pas plus que l'ange. Le but de la création, c'est la gloire de Dieu. Il n'empêche que parmi toutes les créatures visibles, la meilleure qui soit, c'est l'homme, comme le dit le catéchisme, la créature la plus noble que Dieu a mise sur la terre est l'homme. Alors on va le voir pourquoi, hein. C'est bien sûr en raison de sa dimension spirituelle qui le rend, on va le dire, à l'image de Dieu. Hein. La bonté des êtres, leur degré de bonté se prend par rapport à celui qui est le souverainement bon, à savoir Dieu lui-même, puisqu'on avait vu que Dieu est celui qui se définit comme étant l'être même, sans limite. Et le bon n'est rien d'autre que l'être envisagé par rapport à la volonté qui désire cet être. Vous voyez, le bon est un transcendantal, c'est-à-dire que c'est un convertible avec l'être. Partout où il y a de l'être, il y a de la bonté. Le mal étant précisément l'absence d'être dû, qui devrait être là puis qui n'est pas là. C'est ça le mal. Vous voyez. Donc la bonté d'un être est coextensive à son degré d'être. Voilà. Plus un être, est proche de sa source, Dieu, plus il est parfait, autrement dit, plus il est bon, plus il est noble. Sur cette terre, c'est donc l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Nous demande le catéchisme. L'homme est une créature raisonnable, composée d'une âme et d'un corps. Donc c'est très important de bien comprendre que l'homme, déjà, se définit avant tout comme étant une créature. Hein ? Il n'est pas moins dépendant dans l'être que les anges le sont. Prendre une créature, c'est de ne pas avoir l'existence par soi-même. Le propre du créateur, c'est d'avoir en lui-même sa raison d'être. Non pas que le créateur serait sa propre cause, ça serait une contradiction dans les termes, parce que pour se causer, il faudrait à la fois ne pas être et déjà exister pour se causer, donc c'est une contradiction. On ne dit pas que Dieu est sa propre cause. En revanche, Dieu est celui qui a sa raison d'être en lui-même, c'est-à-dire qui est en l'être même, et il est autosuffisant. Ne dépend d'aucun autre que de lui-même. Pour ce qui est de tout le reste, à commencer par les anges, à continuer par les hommes, ce sont bien des créatures qui reçoivent constamment et immédiatement l'existence. Je vous avais dit, il ne faut pas penser la création comme des dés qui ont été lancés il y a des milliards d'années, et puis après, il est advenu ce qui est arrivé. Non, la création, c'est un acte continuel. Car que ça soit il y a 2 milliards d'années pour les uns, et que ça soit maintenant pour les autres, et que ça soit pour nous aujourd'hui ou pour nous il y a 10-15 ans, nous sommes toujours continuellement dans la dépendance pour exister de celui qui est l'existence même. Autrement dit, si Dieu s'arrêtait de penser à nous, c'est pas qu'on mourrait, c'est qu'on retournerait dans le néant. Vous voyez, parce que notre définition, comme toutes les autres créatures, c'est pas d'exister. Et par conséquent, nous n'avons pas en nous-mêmes notre propre raison d'exister. Et donc nous l'avons continuellement de Dieu. Donc l'homme est bien une créature, au sens le plus plaigné du terme. Une créature raisonnable. Alors là, vous voyez, on indique raisonnable précisément parce que sur la terre, il n'y en a pas d'autre de raisonnable. Donc c'est bien ce que les philosophes appellent la différence spécifique, qui nous distingue de tous les autres êtres vivants et de tous les autres animaux. à savoir cette raison dont on va reparler juste après. L'homme est une créature raisonnable composée d'une âme et d'un corps. Alors on pourrait dire, bah, s'il dit âme, pourquoi dire raisonnable? Est-ce que c'est pas un peu une tautologie? Bien non, parce que je vous rappelle qu'en philosophie, l'âme, c'est le principe de vie, anima. C'est ce qui est au principe du mouvement. Donc en soi, tout être vivant, en philosophie, hein, a une âme. La plante a une âme, l'animal a une âme, l'humain a une âme. Un principe de vie qui anime un corps, c'est ça une âme. Hein. Là, on verra la spécificité de l'âme humaine, parce qu'on verra que c'est un principe de vie justement qui est bien immatériel et donc immortel, contrairement à celui des animaux ou des végétaux. Mais voyez, le mot âme ne dit pas en soi raisonnable. Composé d'une âme et d'un corps, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un corps, ça paraît une évidence, mais notez bien que, voyez, on ne peut pas définir l'homme sans l'âme ou sans le corps. Contre ceux qui voudraient faire de l'Église une ennemie jurée de la chair et du corps, eh bien, il faut opposer cette définition solennelle que l'Église a reprise d'Aristote au concile de. Au concile. Est-ce que c'est le concile de Nicée? Je ne me souviens plus, vous le retrouverez. Et toujours est-il que l'Église, à la suite de la philosophie réaliste, définit bien l'homme à la fois par le corps et par l'âme, et il dit même que, on le redira, l'âme est la forme substantielle du corps à la suite d'Aristote, pour bien indiquer que le corps n'est pas quelque chose de surajouté à ce que serait foncièrement l'homme. Si vous le enlevez de la définition de l'homme, l'âme, vous faites de celui-ci un cadavre. D'accord? Si vous enlevez de sa définition le mot raison, vous en faites un animal. Et puis si vous enlevez de sa définition le mot corps, vous faites de l'humain un ange. Comprenez bien que l'homme n'est ni ange, ni cadavre, ni animal. C'est la raison pour laquelle c'est essentiel d'avoir dans cette définition, comme élément définissant, c'est-à-dire déterminant, distinguant l'homme de tous les autres êtres, à la fois le corps et à la fois l'âme douée de raison. C'est donc très important de le tenir. Et en ce sens, même si on le redira, le corps est fait bien sûr pour l'âme, le corps n'est pas moins important que l'âme comme élément, encore une fois, essentiel de la nature humaine. Et c'est la raison pour laquelle l'Église aura toujours condamné ceux qui, par principe, font du corps quelque chose qu'il faut abattre. C'est le concile de Vienne, vous voyez. Le 15e concile œcuménique, un concile œcuménique, je rappelle, hein, ce n'est pas un concile qui convoque d'autres religions que la religion catholique, hein, mais œcuménique, là, ça veut dire œcumène, c'est universel, c'est un concile qui convoque tous les évêques du monde entier, hein, c'est ça. Donc il y en a eu 21, en incluant le dernier concile du Vatican. Et donc le 15e concile, le concile de Vienne, qui donc a dû se dérouler dans cette ville, reprend tout à fait la définition d'Aristote. Concernant l'humain et concernant l'âme, j'en reparlerai juste après. Voilà. Mais donc, ne cherchons pas du tout comment dire, à éliminer le corps, hein, en faisant de l'homme, du coup, un ange qui serait perdu, tombé dans la matière. Non, non. L'homme est bien une espèce à part de l'ange, espèce à part de l'animal. Qu'est-ce que l'âme? Oui, je rajoute que ce composé, parce qu'en fait, il ne l'aborde pas après, donc il faut que je l'aborde maintenant. Quand il dit que c'est composé d'une âme et d'un corps, vous savez qu'il y a différents types de composition. Hein. On parle de différents tout en fonction des différents liens qu'il y a entre les différentes parties qui composent ce tout. Le tout formé par un tas de cailloux n'est pas la même chose que le tout formé par une maison, les éléments de la maison qui permettent le tout, qui permettent de le qualifier de tout. Pour ce qui est du tout composé par ces deux parties essentielles de la nature humaine, corps et âme, il faut parler d'un tout substantiel. Hein? C'est-à-dire que, comme je vous le disais, le corps ou l'âme n'est pas quelque chose d'accidentel qui serait rajouté comme une caractéristique. Non, c'est ce qui vraiment constitue essentiellement ce qu'est l'humain. Et là, vous savez, il y a toujours un peu une tension de vouloir soit réduire, à la suite de Platon, l'humain à un esprit embrigadé dans la matière, et certains y voient une punition des dieux, et puis les autres de voir, et c'est la tendance aujourd'hui, l'homme comme un animal à peine plus évolué que le gorille. Voyez. Alors, outre les problèmes que ça pose, qu'on verra après, il faut bien tenir que c'est un corps et une âme, vous l'avez bien compris, mais l'union du corps et de l'âme est substantielle. C'est pour ça que si vous Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est le corps humain en le séparant de son âme. Parce qu'encore une fois, un corps humain sans âme humaine, ce n'est pas un corps humain. C'est soit un corps d'animal en vie, soit un cadavre, s'il n'y a pas d'âme du tout. Et une âme sans corps, c'est un ange. Ce n'est pas une âme. Le propre de l'âme, c'est de se référer à quelque chose qui l'anime. Donc cette union est une union substantielle, c'est-à-dire que l'âme est la forme substantielle du corps humain. Alors ça, c'est Aristote qui nous le dit, ça s'est repris par le Concile de Vienne, comme je vais le citer juste après. Mais pour comprendre ce qu'est la forme, il faut revenir à cette étude que Aristote fait du mouvement appliqué aux êtres sensibles qu'il voit. Et il constate que dans tout être matériel qui change, il y a à la fois un principe d'indétermination qui lui permet de changer, de devenir autre que ce qu'il était. Et puis il y a un principe de détermination qui fait qu'il est ce qu'il est essentiellement et qu'il demeure ce qu'il est malgré les changements. Appliqué à vous, lorsque vous aviez l'âge d'un an ou de deux ans, et puis maintenant vous avez changé considérablement. Donc vous aviez en vous un principe d'indétermination qui permettait de devenir autre que ce que vous étiez à l'époque. Et pourtant vous êtes bien essentiellement la même chose, la même personne, le même être, pardon. Ce qui permet d'établir qu'il y a deux principes qu'on ne voit pas directement mais qu'on peut déduire de ce qu'on voit de la réalité. Un principe de détermination qui fait qu'une chose est essentiellement ce qu'elle est, la forme. Alors qu'il y a à voir la forme avec la figure ou la silhouette. Hein. Et puis la matière, qui est ce par quoi la chose est en capacité à devenir autre chose que ce qu'elle est. Forme et matière. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hylémorphisme. Pour expliquer justement le devenir des êtres matériels. On a vu que les anges, c'est des formes séparées. Elles n'ont pas de matière. D'accord. On va revenir sur les anges. Mais voilà pour ce qui est le cas bien singulier de l'être humain. Et le propre de la mort, c'est cette séparation de l'âme et du corps. C'est pour ça que la mort est si violente. Parce qu'il n'appartient pas, de par sa nature, il n'appartient pas à l'homme en soi d'être sans son corps. C'est pas un état de violence, c'est un état anormal en soi. Alors je vous cite pour bien vous montrer que c'est pas du tout une invention de ma part et que c'est pas un choix optionnel, la philosophie d'Aristote, en tout cas pour ce qui concerne la définition qu'Aristote donne de l'âme, parce que mot pour mot, eh bien le Concile de Vienne la reprend et en fait un dogme, c'est-à-dire que celui qui le nie n'est pas catholique. Alors voilà ce que l'Église enseigne, hein. De plus, avec l'approbation du Saint-Concile, nous réprouvons comme erroné et opposé à la foi catholique. Donc erroné, c'est pour bien dire contraire à la raison, vous voyez. Et en plus, opposé à la foi catholique, toute doctrine ou toute thèse affirmant témérairement que la substance de l'âme rationnelle et intellectuelle n'est pas vraiment et par elle-même la forme du corps humain, ou le mettant en doute. Et nous définissons, pour que tous connaissent la vérité de la pure foi et pour fermer la porte à l'entrée subreptice de toute erreur, que quiconque osera désormais affirmer, défendre ou soutenir obstinément que l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas par elle-même et essentiellement la forme du corps, soit considéré comme hérétique. Voilà donc l'enseignement le plus solennel de l'Église dans ce concile de Vienne. Donc, vous voyez, notez bien que l'âme, elle est à la fois le principe de vie d'un vivant et elle est inséparablement la forme substantielle du corps qu'elle anime. C'est ainsi que le vivant, par la forme qu'il a, est individualisé, délimité par rapport aux autres êtres, et a en lui-même un principe d'action. Le signe qu'un être a une âme, et c'est ce qui distingue les minéraux ce qui distingue les non-minéraux des minéraux, c'est justement le fait qu'il a une capacité d'agir par lui-même, et pas simplement d'être mu par d'autres. Il est la cause première de ses activités, alors qu'ils sont plus ou moins riches. C'est sûr que l'activité d'un végétal est quand même beaucoup moins développée que l'activité d'un animal. Bon. Voilà, Aristote définira l'âme comme ce par quoi, et d'abord nous vivons, nous sentons, et nous mouvons, et nous saisissons intellectuellement. Voilà ce qu'il dit dans le traité de l'âme. On est voyé 4 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est bien d'abord une affaire de raison, mais que l'Église, bien sûr, présuppose et assume dans ce qu'elle dit de l'homme. Alors, il a pu vous étonner que dans le Concile de Vienne que je viens de citer, l'âme est qualifiée de substance au tout début. Hein, la substance de l'âme rationnelle. Et je vous ai dit que pourtant il y avait un composé substantiel qui était corps et âme. Alors on rajoutera, on précisera, l'âme est en soi une substance incomplète. Il ne lui appartient pas d'être sans un corps, mais elle est une substance parce qu'effectivement, par elle-même, elle a l'existence. Elle dépend comme tout autre être de Dieu, hein, bien sûr, mais elle a l'existence en soi. C'est pas une caractéristique, l'âme humaine n'est pas une caractéristique qui se rajoute au corps, qui ferait qu'elle dépendrait du corps pour exister. Voyez, le problème de la substance, c'est d'avoir l'existence en soi. Le problème d'un accident, comme par exemple il y a la couleur, la silhouette, le savoir, bah, c'est que ça n'existe pas indépendamment d'un sujet. L'âme, elle est un sujet. Un sujet incomplet lorsqu'elle est séparée du corps. Parce qu'il lui appartient d'être unie substantiellement au corps qu'elle est censée animer, bien sûr. Voilà. Mais donc, vous voyez, la doctrine, la philosophie réaliste qui est assumée par la doctrine catholique sur ce qu'est l'homme, vraiment élimine tout dualisme. Hein. Vous voyez, toute opposition entre l'âme et le corps, ou toute réduction de l'homme à l'âme ou de l'homme à son corps. Alors on dirait que, vous voyez, le propre de l'âme humaine, c'est non seulement d'être une forme comme les autres âmes, mais on dira forme subsistante. Pour dire qu'elle demeure même si elle n'anime plus le corps qu'elle est censée animer. À la différence des âmes végétales et animales qui disparaissent aussitôt que le corps qu'elles animent disparaît. Qu'est-ce que l'âme ? Continue le catéchisme. L'âme est la partie la plus noble de l'homme, parce qu'elle est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder éternellement. Donc la partie la plus noble. Donc là-bas, c'est la partie la meilleure, parce que c'est la partie qui a en soi, eh bien, un degré d'être supérieur au corps. Et on dit souvent, voilà, de la même façon que l'homme n'est pas fait, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre, et on pourrait dire de la même façon, l'âme n'est pas faite pour le corps, c'est le corps qui est fait pour l'âme. Et on le comprend bien, puisque c'est bien cette âme, on l'a entendu au sens spirituel, qui nous distingue des animaux et qui nous élève au-dessus du règne animal. Donc l'âme est la partie la plus noble de l'homme parce qu'elle est une substance spirituelle. Donc c'est-à-dire spirituel, là c'est pas au sens religieux qu'il faut prendre, hein. Spirituel ça veut dire immatériel, c'est-à-dire non composé de contraire, et donc de soi eh bien indestructible par une puissance extérieure, bien que annihilable par le créateur, puisque si le créateur décide de ne plus maintenir dans l'être telle ou telle créature, par définition elle retourne dans le rien. Bon, ça c'est une autre question. Donc l'âme est la partie la plus noble de l'homme parce qu'elle est une substance spirituelle, donc elle n'est pas sujet en soi à la disparition, à la destruction, contrairement au corps, et c'est bien le signe de sa noblesse, douée d'intelligence et de volonté. Voilà pourquoi c'est spirituel, cette âme. C'est qu'elle a deux facultés. Elle a deux facultés de capacité qui impliquent, pour exister, d'être immatérielle. On reprécisera. Mais la capacité de l'intelligence qu'elle a de saisir l'universel dans le particulier, d'abstraire, comme on dit, de séparer des images qu'elle a, la nature d'une chose. Et vous voyez plusieurs vaches, et puis vous retenez la nature de la vache. Au point que si un jour vous découvrez une nouvelle espèce de vache, ou que vous êtes à carnaval, que la vache est déguisée, vous allez quand même reconnaître que c'est une vache. Tant vous n'aviez jamais vu celle-ci. Parce que vous avez l'idée de la vache, qui transcende toutes les réalisations particulières. Donc la capacité d'abstraire, de saisie de l'universel dans le particulier, la capacité de raisonner, d'abord de juger, de dire ça c'est une vache, ça c'est pas une vache, elle est de telle ou telle espèce, bon. Et puis la capacité de raisonner, d'enchaîner les jugements pour aboutir à des conclusions nouvelles à partir de ce que vous, des idées que vous avez, et bien ça c'est une capacité qui est propre à l'homme, bien sûr, pour ce qui est de l'intelligence. Les trois opérations d'intelligence, hein, saisir la nature des êtres, juger et puis raisonner. Et puis quant à la volonté, la capacité d'aimer, pas simplement d'éprouver de la joie ou du plaisir, la capacité de vouloir le bien, et le bien, son propre bien à soi, mais aussi le bien des autres, ça c'est une capacité qui est propre à l'humain. Le signe en est, c'est qu'on le redira, seul l'humain est responsable, est censé être réputé responsable de ses actes. Précisément parce qu'il est libre et que sa volonté n'est pas réductible à des instincts ou à des tendances. Attention, je ne dis pas que l'homme n'a pas de tendance. Il a même, je crois, il faut affirmer qu'il a au moins un instinct. C'est celui de succion. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a l'instinct d'aller chercher le sein de sa mère pour se nourrir. Là, il y a vraiment un agir intelligent qui n'est pas justifié par un acte de la volonté. Pour le reste, pour ce qui est de son corps, on parle de réflexe, on parle de mon instinct. Et autrement, pour le reste, le problème de l'homme, c'est d'avoir justement une maîtrise de ses tendances et d'avoir donc une liberté. On en reparlera. Mais donc c'est ça qu'on veut dire pour dire que l'âme humaine est spirituelle à cause de ces deux facultés de connaissance et d'amour qui le rend radicalement distinct des animaux et qui le rend, on va le dire, image de Dieu et en ce sens aussi semblable aux anges. Capable de connaître Dieu et de le posséder éternellement. C'est la conséquence de ces facultés propres à l'homme. La connaissance de Dieu en tant qu'il est la cause de tout ce qui existe, qu'il soit croyant ou non, catholique ou non, tout est fait à une cause, comprend l'homme, c'est un des principes premiers qui découle du principe de non-contradiction, à savoir qu'une chose ne peut pas être à la fois ce qu'elle est, une chose ne peut pas être à la fois tout et son contraire, hein, on ne peut pas être et ne pas être simultanément et en même temps sur le même rapport. Voilà. Donc quelque chose qui apparaît, ça suppose qu'elle n'est pas en elle-même sa raison d'exister, donc c'est un effet, donc il dit effet dit cause, donc on va rechercher la cause. Et toutes les sciences partent en général de ce constat. Donc capable de connaître Dieu au moins comme cause de tout ce qui existe, et puis de le posséder éternellement. Alors le posséder, là, c'est... Aujourd'hui, le mot posséder, il est réduit au bien matériel, alors ça, pour le coup, ça réduirait la transcendance de Dieu si on le comprenait comme ça. Posséder, là, c'est pas comme je possède un téléphone ou une feuille. Hein. Posséder, ça veut dire... ça veut dire l'acte de la volonté qui possède un objet qu'elle connaît. Et là, le mot objet, il n'est pas au sens matériel, il est au sens de ma faculté qui saisit ce pourquoi elle est faite. Donc je connais Dieu en tant qu'il est la cause de la créature, je peux le posséder en tant que je l'aime et qu'il est en moi. Hein. On dit souvent l'aimer est dans l'aimant. Quand j'aime quelque chose, cette chose est en moi. Quand j'aime un être, cet être il est en moi de cette façon. C'est ça que ça veut dire posséder ici. Hein. Ça ne veut pas dire en être le propriétaire. On va revoir ça juste un peu après, de toute façon, plus en détail. Peut-on voir et toucher l'âme humaine ? On ne peut ni voir notre âme, ni la toucher parce que c'est un esprit. Cette question peut paraître enfantine. Et pourtant, nous avons bon nombre de médecins qui ont fait plus de 10 ans d'études et qui cherchent encore l'âme sous le scalpel, si je puis dire. Qui pensent très doctement que la conscience, comme ils appellent, puisqu'ils ne veulent pas parler d'esprit, parce que ça c'est relié à la croyance, ou à des philosophies obscurantistes, ou pire, à la religion. Donc ils parlent de conscience. Ils sont prêts parfois à parler des consciences extrasensibles, parce qu'ils admettent quand même que l'homme n'est pas tout à fait un animal, et donc il n'y a pas que... ces activités ne sont pas réductibles à ce qu'il ressent immédiatement. Mais bon, même pour ceux qui admettent une conscience extrasensible, ils sont persuadés que la conscience est sécrétée par le cerveau, un peu comme la bile le serait par le foie. Donc ils sont tout à fait dans cette vision matérialiste, qu'on peut toucher l'âme ou la voir. Alors qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens d'investigation le permettant de la localiser précisément, mais qu'un jour ça arrivera. Je vous garantis qu'ils peuvent toujours chercher. Ils n'ont pas fini de chercher. Bon. Alors c'est hallucinant. C'est hallucinant quand même que des gens si intelligents tombent dans ce travers matérialiste. Alors ça vient de plusieurs choses. Hein. Ça vient d'une part que nous sommes depuis au moins un siècle sous cette nouvelle religion du scientisme, on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, où on excommunie les gens qui ne sont pas d'accord avec la dernière théorie qui vient de sortir pour justifier ce qui se passe et les méthodes qu'il faut employer pour lutter contre ce mal. On parle même maintenant, j'ai vu, de négationnistes par rapport à ceux qui nieraient la réalité du Covid, ou plutôt les moyens qu'il faut employer pour lutter contre. Tout ça pour dire qu'on voit bien qu'on a une religion qu'on se substitue à une autre. Après la religion chrétienne, on a eu la religion de la laïcité qui se décline sous plein de modes, et chez les scientifiques, c'est la religion du scientiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir certain et objectif en dehors de celui de la science expérimentale. Et absolument certain et vrai, ce que je peux en soi vérifier, reproduire en laboratoire, quantifier. Donc on part de ce présupposé-là. Donc forcément, le champ d'investigation... concernant l'homme, il est assez réducteur, hein, et on part de ce postulat-là. Hein. Ça c'est la première cause, si je puis dire, un peu ultime de cela. La deuxième cause, c'est sûrement que ces scientifiques ne veulent pas reconnaître la capacité propre à l'homme d'abstraire ainsi que sa liberté réelle. Ils font de tous ces comportements, en fait, des mécanismes seulement plus évolués que celui de l'animal. Et souvent, ce sont les mêmes qui reconnaissent, soi-disant, une certaine intelligence animale. Comme l'animal, vu de l'extérieur, semble agir de façon intelligente, c'est-à-dire en vue d'un but, ce qu'on ne dénie pas du tout, ils veulent en conclure assez vite que, du coup, il n'y a pas de différence essentielle et fondamentale entre le comportement intelligent des animaux que je peux constater et puis le comportement des hommes. Voilà. Alors, je pense que oui, c'est deux éléments qui expliquent, entre autres, leur perte, leur aveuglement. Mais comprenez que le postulat de base est très grave, parce que réduire le savoir à l'expérimental, c'est clairement régresser, hein, dans l'ordre de la civilisation. Hein, parce que il n'y a pas plus certain qu'on existe. C'est encore plus certain que toute expérience en laboratoire. Oui. L'évidence de l'être, elle est beaucoup plus certaine que toute autre expérience. Voyez. Et que la vérité métaphysique du principe d'identité que j'ai rappelé ou de nos contradictions, c'est quelque chose qui s'impose à n'importe qui, scientifique ou non, et qui est immédiatement en soi, pour le coup, utilisé et perçu de l'enfant de 4 ans au vieillard de 90 ans. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on peut ni voir notre âme, ni la toucher, parce que c'est un esprit. Parce qu'elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'en sens où où elle est immatérielle. Donc elle n'est pas objet de nos sens externes, de nos sens internes. Nous-mêmes, nous ne voyons pas notre âme. Pourtant, nous avons la conviction que nous avons une raison. Hein. Et nous en avons l'évidence, plus qu'une conviction, nous avons l'évidence que nous en avons une. Et pourtant, nous ne la voyons pas. Car elle est immatérielle. Et par définition, on ne peut pas non plus donc la toucher, puisqu'elle est objet d'aucun sens, cette âme. L'âme humaine meurt-elle avec le corps? Alors, oui, par rapport à ce que je viens de dire sur les scientifiques, ils sont quand même pas tous complètement comme ça, et notamment par le biais, même pour les scientistes, par le biais des expériences de mort imminente, qui sont, si je puis dire, un des symptômes éloignés comment dire, constatables, d'une possible survie de la conscience indépendamment du fonctionnement cérébral. Pour certains, ça les a quand même mis sur le chemin. Hein, mis sur le chemin, j'allais dire, du spiritualisme. C'est-à-dire ne pas réduire la réalité à ce qu'on voit et à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut expérimenter. Autrement dit, le fait qu'il y ait des gens dont on a pu attester que le cerveau n'était pas du tout en état de marche et qu'ils aient pu prétendre faire une expérience beaucoup plus riche que des rêves et en plus rapporter des renseignements qu'ils étaient incapables de savoir, vu leur état pendant ce coma ou cet accident et des connaissances qu'ils n'avaient pas avant. Comme les conversations que les médecins ont eues pendant la réanimation, pendant l'opération, comme ce que faisait tel ou tel proche, comme le décès du grand-père pendant qu'il était dans cette phase de coma, et ainsi de suite. Bon, on fait quand même parfois évoluer certains scientifiques et certains médecins qui se sont convertis, non pas forcément à la religion, mais en tout cas au spiritualisme. Voyez. Parce que là, on touche justement par ce genre de phénomène, eh bien, comment dire, le palier séparant. Le scientifique expérimental du scientifique, j'allais dire, raisonnable, philosophique, voyez. Parce qu'on ne devrait pas accepter d'employer le mot scientifique uniquement pour l'expérimental. Vous avez bien compris que la science des sciences, c'est la sagesse et c'est la philosophie, hein, qui donne les principes à toutes les autres sciences. Hein. À commencer, encore une fois, par le principe de non-contradiction que n'importe quelle science emploie. Bon. Donc oui, je pense par exemple au docteur Ibn Alexander, c'est un neurochirurgien de la Harvard qui a fait donc lui qui vous expliquait avec autorité, comme cet autre Belge que j'ai oublié, qui arrive avec un petit cerveau sur les plateaux télé pour montrer qu'un jour on va réussir à stimuler les bonnes zones pour faire reproduire en laboratoire ces expériences de mort imminente. Bon, toujours est-il que lui, il faisait des conférences partout pour dire que ces expériences de mort imminente c'était du pipeau, que c'était l'œuvre de gens un peu perdus. N'empêche qu'il fait une méningite foudroyante avec la bactérie E. coli qui envahit tout son cerveau. Il était programmé soit pour mourir, soit pour ne jamais retrouver ses facultés autres que végétatives. Et dans son voyage, tout ce qu'il décrit, il apprend l'existence de sa sœur biologique, qu'il ne connaissait pas avant, parce que les deux avaient été adoptés dans des familles séparées. Bon. Et il se met à sa recherche, et après hein, son expérience, et de fait, il tombe sur une photo où c'est vraiment... Il la reconnaît, en fait, c'est comme ça. Il tombe sur une photo, il reconnaît celle qu'il avait vue dans son soi-disant rêve, qui était cette expérience de mort imminente. Il fait une enquête pour savoir d'où vient cette photo, et il arrive la preuve que c'est sa sœur biologique. Bon. Qu'il n'avait jamais vu en ce monde. Bon. Et là, ce qui est très intéressant, contrairement à des accidents où on n'a pas le temps de voir ce qui se passe dans le cerveau, là, pour le coup, on a tous les scanners. Donc on a l'état du cerveau pendant cette phase-là. On ne peut pas dire, oui, c'est quelque chose qu'il avait perçu juste avant que le cerveau se déconnecte. Non, non. Bon, et donc aujourd'hui, il fait maintenant le tour du monde pour dire le contraire de ce qu'il disait avant. Bon, moi, c'est honnête. Non. Je ferme la parenthèse. L'âme humaine meurt-elle avec le corps? L'âme humaine ne meurt jamais. La foi et la raison elles-mêmes prouvent qu'elle est immortelle. La foi et la raison. Voyez? Je vous rappelle que dans la révélation, à savoir ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel, et qui est contenu dans l'Écriture sainte et dans la tradition, et close à la mort du dernier apôtre, saint Jean, eh bien on distingue deux ordres de vérité. Les vérités proprement de foi, qu'on n'aurait pas pu découvrir par nous-mêmes, comme le mystère de la Trinité, un Dieu en trois personnes, ou comme la réalité de la présence de Jésus sous les apparences du pain à la messe. Ça, c'est les vérités proprement de foi. Même l'existence de ces vérités, on n'aurait pas pu s'en douter si on ne nous l'avait pas dit, si justement Dieu ne s'était pas dévoilé, révélé. Et puis, il y a d'autres vérités que Dieu nous redit, mais que l'homme par lui-même en soi peut découvrir et démontrer. C'est ce qu'on appelle les préambula fidei. À condition, bien sûr, à ce que l'acte de foi soit posé, c'est qu'on pense que Dieu existe. Si on pense que Dieu n'existe pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et pareil pour ce qui est de l'âme. Si on est convaincu que l'âme humaine ne distingue en rien de celle des animaux, et donc qu'elle est matérielle et qu'elle meurt, toutes les religions tombent, si vous voulez. La condition de base pour qu'il y ait une des religions qui soit vraie, c'est d'abord qu'il y a un Dieu qui existe, qui puisse se révéler, fonder une religion, et puis que l'homme ait une destinée qui dépasse cette terre, ce qui implique un principe en lui immatériel. Bon. Donc c'est à ce titre que la révélation nous redonne des choses qu'on aurait pu découvrir par nous-mêmes. Qu'on appelle les problèmes de la foi. Mais ce n'est pas réservé aux croyants, aux catholiques. Encore une fois, Aristote, 4 siècles avant Jésus, il arrive une définition extraordinaire de l'âme, et il dit même, on va le redire après, que cette âme, pour l'âme humaine, contrairement aux animaux végétaux, elle vient du dehors. Pour dire qu'elle ne vient pas des parents, contrairement au corps. Bon. Donc c'est très intéressant de voir que, vous voyez, le catéchisme, qui est pourtant destiné à des gens déjà convaincus, déjà croyants en général, eh bien, comme pour l'existence de Dieu, nous rappelle que la raison par elle-même. Est apte à démontrer la spiritualité de l'âme et donc son immortalité. Souvenez-vous, c'est comme pour l'existence de Dieu, celui qui dit « moi j'ai la foi, j'ai pas besoin de savoir comment on démontre l'existence de Dieu, et d'ailleurs j'en doute », mais il n'est pas catholique celui qui dit ça. Parce que la foi lui enseigne que tout homme peut, par sa propre raison, arriver à la certitude de l'existence de Dieu par une démonstration purement rationnelle. Et celui qu'au nom de la foi remet en cause ça, il n'est pas catholique. S'il a conscience qu'il s'oppose à l'enseignement de l'Église, bien sûr. Et bien pareil pour l'âme humaine, en raison du Concile de Vienne que je vous ai cité tout à l'heure. Alors comment la raison peut démontrer l'existence de l'immortalité de l'homme, de l'âme ? Eh bien par ses actes. Par ses actes. On ne voit pas notre âme, bien sûr, mais par les actes qu'elle peut poser, on peut en déduire des facultés spirituelles. Je vais prendre deux preuves, hein. C'est pas un cours de philosophie, mais je mentionne que ce qui est catéchisme, c'est pas quelque chose de convenu qu'on ne devrait pas discuter. On peut tout à fait le montrer, que la raison peut démontrer le sens de l'immortalité de l'âme. Tout d'abord, donc première preuve, tout simplement, en partant de l'acte de connaissance, comme je vous le disais. À partir du moment où ma connaissance proprement humaine est une connaissance de l'être, et non pas simplement des images, des choses, que je suis capable d'abstraire du particulier des images que j'ai du chien ou des vaches, eh bien, une idée de vache, une idée de chien qui répond à la nature canine, la nature de la vache. Je comprends alors que cet acte de connaissance qui a supposé de dégager de la matière sensible la nature de la chose qu'elle connaît, ou de l'être qu'elle connaît, ici l'idée de vache, qui est séparée des images de vache, il y a une différence entre l'image de vache et l'idée de vache. L'image, elle est universelle, elle est immatérielle, l'image de vache, elle est particulière, elle est concrète, elle n'est pas interchangeable, d'accord ? L'idée de vache, elle est universelle, elle est illimitée, elle n'est pas liée directement à un espace-temps. Eh bien, si l'intelligence connaît ainsi en dégageant de la matière sensible la nature des êtres, alors cette intelligence elle-même doit être dégagée de toute matière sensible, pour poser un acte proportionné, pour que l'acte de connaissance immatérielle soit posé, il faut qu'il le soit par une faculté, qui lui soit proportionnée. Cette faculté, elle est donc dégagée de la matière. Donc elle est immatérielle. Voyez. Autrement, vous remettez en cause le fait que l'homme ait des idées qui ne sont pas simplement des images plus évoluées. Alors bien sûr qu'il n'aurait pas d'idées sans images, je ne dis pas le contraire. De la même façon qu'il n'aurait pas d'image s'il n'y a pas de sens. Donc il est bien obligé de passer par la case image. Mais une fois qu'il a l'idée, on peut lui supprimer toutes les images, il aura l'idée. Il la conserve. Deuxième démonstration du malheur pour ce qui est de l'âme en passant par l'acte de connaissance. Le fait que l'intelligence soit capable de tout connaître. Je dis pas qu'elle connaît tout, mais elle soit capable en puissance de tout connaître. Ça implique qu'elle ne possède pas en elle-même telle ou telle nature. Pour être apte à devenir n'importe quelle autre chose, il faut ne pas être déterminé par cette nature. Vous voyez, pour que la pupille puisse voir, il ne faut pas qu'elle possède de couleur. Si la pupille était d'une couleur, elle verrait tout sous le prisme de la même couleur, donc il n'y aurait qu'une seule couleur. Ce qui fait qu'elle peut voir plusieurs couleurs, c'est qu'elle est transparente. Ce qui fait que l'intelligence est capable de tout connaître, c'est qu'elle ne possède pas en elle-même telle ou telle nature. Matérielle, j'entends. Contrairement à tout corps ou tout organe qui a une nature matérielle, qu'il détermine d'ailleurs à avoir que tel type d'information. Encore plus fort, le fait que l'intelligence puisse, je l'avais pris comme image pour expliquer un peu, éclaircir le mystère de la Trinité, le fait que l'intelligence puisse se connaître, être son propre sujet de connaissance, que vous puissiez être à la fois votre objet et sujet de connaissance. Vous pouvez vous penser en train de penser à l'intelligence qui pense. Vous pouvez vous penser en train de penser à l'intelligence qui pense. Bon. Le fait de pouvoir donc avoir cette réflexivité, de faire retour sur soi-même, et c'est ainsi que je sais que je peux une intelligence, parce que justement, je fais ce retour entre l'acte qu'elle pose et puis sa faculté, et je peux prendre cette faculté comme propre objet de connaissance, ça suppose à penser que cette intelligence, elle n'est pas immédiatement réductible à un organe qui, étant matériel, ne peut pas se dédoubler sans se détruire. Oui, même le toucher ne se touche pas. Vous voyez, la cellule touchante n'est pas la cellule touchée. Il n'y a aucun organe qui peut se prendre comme propre objet de sa connaissance sensible. L'œil ne se voit pas. L'oreille ne s'entend pas, si je puis dire. Donc ça, c'est les trois arguments manifestant bien l'immatérialité de l'âme par la connaissance. Par la volonté, c'est encore plus clair, parce que si on ne veut pas reconnaître que la volonté est spirituelle et qu'on veut dire qu'elle est matérielle, il faut nier la liberté humaine. Si on nie la liberté humaine, on nie la responsabilité. Autrement dit, tant qu'il y aura des tribunaux dans les pays civilisés, eh bien, il y aura un aveu, contrairement à tout ce qu'on peut dire, que l'homme se distingue de l'animal en raison de sa capacité à s'autodéterminer, à prendre des moyens en vue d'un but. Personne ne peut dire « Monsieur le juge, moi c'est ma main qui a donné un coup de poing. Mais moi, c'est vraiment pas moi, c'est genre un spasme, et puis j'ai pas pu contrôler. » Alors, dans ce cas, il va falloir faire une exercice médicale pour montrer qu'il n'y a plus de connexion possible entre le cerveau et la main qui fait que la main part toute seule. Ça, c'est possible. Mais en dehors de ça, on part du principe que la main, elle n'a pas bougé toute seule. Et que j'aurais pu ne pas la bouger. Donc si j'aurais pu ne pas la bouger, c'est bien que je ne peux pas arguer uniquement des systèmes neuronaux ou électriques ou de l'influence de mes hormones pour justifier ce coup de poing. Ça implique donc une indétermination. Or, le prof de la matière, c'est d'être déterminé. Vous voyez ? Bon, tout ça est corroboré par le fait que vous pouvez ouvrir un cerveau ou le mettre dans un scanner, vous ne pourrez jamais déduire ce que la personne est en train de penser ou en train de vouloir, ou en train d'aimer ou en train de détester. Vous voyez ? On peut situer des zones activées quand la personne est en activité, bien sûr, de là à dire ce qu'elle est en train de penser, ou si elle est en train d'aimer, de détester, ça paraît compliqué. Bon. Attention, je ne suis pas en train de miniser le cerveau, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de connaissance possible. Hein. Et il n'y a pas d'interaction possible dans ce monde, hein, sans cerveau. Mais le cerveau, c'est une interface, ni plus ni moins. Je prends l'exemple que donne le docteur Charbonnier, qui était le maître de thèse du professeur Lallier, qui a fait la première thèse de médecine sur la question d'espérance de mort imminente, comme preuve d'une conscience intuitive extra-neuronale. Ça, c'est pour ne pas prononcer le mot âme, mais il met toutes les propriétés du mot âme. Donc c'était en 2013 ou 2014, l'Université de Lille, de mémoire. Et Dr Charbonnier, il résume la thèse en disant, voilà, il faut concevoir l'âme humaine, le cerveau, pardon, comme une interface, comme un poste de télé. Le poste de télé est cassé, vous n'avez plus d'émission, vous êtes bien embêté. Bon, n'empêche que l'émission, elle continue. Le cerveau est cassé, bah, il n'y a plus de possibilité, effectivement, de recevoir les informations, mais le cerveau étant pas la cause d'information, les informations elles continuent, mais elles ne sont plus communicables. Voyez. Donc c'est un émetteur-récepteur, le cerveau. Et ça reçoit des informations que ça donne à l'âme, ça en exprime à l'extérieur, mais c'est pas ça qui cause. Bon, c'est une interface. Vous voyez, la raison montre bien que, et peut le démontrer, hein, et bien que l'âme est. L'âme humaine, de par ses deux facultés, est spirituelle. Alors on dirait, oui, mais pourquoi il y aurait peut-être deux facultés qui se rajoutent à l'âme? Non, parce qu'il n'y a qu'un seul moi. C'est le même moi qui pense, c'est le même moi qui aime, c'est le même moi qui ressent, c'est le même moi qui a froid. Donc cette unité des fonctions vitales avec les fonctions supérieures manifeste bien qu'il y a une seule forme, justement, au sens aristotélicien. Hein? Et c'est la raison pour laquelle, de par l'acte spirituel de ces facultés du coup spirituelles, on a la certitude qu'elles s'enracinent dans un principe spirituel qu'on appelle forme, qu'on appelle âme. L'homme est-il... Bon, et puis la foi nous le dit, alors là, si vous enlevez le mot âme, effectivement, du discours de Jésus, vous allez la réduire à l'évangile à peau de chagrin. Hein. C'est toujours présupposé, en tout cas, la question de l'âme. Et du fait qu'elle soit immortelle, je veux dire. Hein. C'est toujours présupposé. Donc la foi le dit clairement, et c'est ça le début. L'homme est-il libre dans ses actions? Oui, l'homme est libre dans ses actions, et chacun sent en lui-même qu'il peut faire une chose ou ne pas la faire, faire une chose plutôt qu'une autre. Ça, c'est très amusant de prendre cet exemple-là pour montrer avec un enfant qu'il est libre, même s'il a très envie de faire une bêtise. Vous voyez? Mais ouais, tu peux faire la bêtise. Ah non, si je la fais, je vais me prendre une, je vais avoir, je n'aurai pas de dessert ou je serai privé d'anniversaire, donc je suis pas libre, je suis obligé d'être sage, mais c'est pas parce que j'ai envie d'être sage, c'est parce que je suis pas libre. Ah si, t'es libre, tu sais très bien que tu peux transgresser, c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est à des humains qu'on fait des lois, c'est pas à des animaux. Tu es libre. Mais effectivement, bah tu as un choix à faire, voilà, entre pas de gâteau et pas d'anniversaire, ou sacrifier cette envie, cette pulsion de tirer les cheveux de la petite sœur, voilà. À choisir, quoi. Soit tu sacrifies cette envie de tirer la chose de petite sœur, soit tu sacrifies ton anniversaire. Bon. Donc, si on peut lui poser un interdit, c'est qu'elle a une capacité de revenir sur un choix qui comptait peut-être mener à bien au début. Donc, oui, l'homme est libre dans ses actions, et chacun sent en lui-même qu'il peut faire une chose ou ne pas la faire, même si on lui interdit, il peut le transgresser. Faire quelque chose plutôt qu'une autre. Donc, il y a deux choses qui sont dites, hein. Il y a la liberté d'action. La liberté, en tout cas, de vouloir ou de ne pas vouloir. Et puis, il y a la liberté de spécification, c'est-à-dire là, choisir ceci plus que cela. Vous voyez? Choisir ceci plus que cela. On parlera alors plutôt de libre arbitre, plutôt que de liberté. La liberté, c'est plutôt le passage à l'acte, et qui n'est pas le propre des humains. Les animaux, en nature, ils sont libres. Ils ne sont pas d'entrave, ils peuvent aller d'un endroit à un autre. Le prisonnier n'est pas libre. Il a quatre murs. En revanche, il a toujours le libre arbitre que n'a jamais l'animal et que l'humain a toujours. Même dans sa cellule, il peut haïr profondément le geôlier ou l'aimer. Même dans sa cellule, il peut avoir de la rancune par rapport au flic qui l'a pris, au contraire, de l'estime. Donc après, il ne pourra pas le manifester en allant chercher une boîte de chocolat, ou au contraire, on en cherche un poignard pour le tuer. Bien sûr, la liberté, elle est entravée. Mais le libre arbitre, il demeure. La capacité de choix, elle demeure. Voyez. Expliquer par un exemple cette liberté humaine. Ben, si je dis volontairement un mensonge, je sens que je pourrais ne pas le dire et me taire. Et je pourrais aussi parler différemment en disant la vérité. Donc, vous voyez, la très grande optimisme de l'enseignement de l'Église catholique, contrairement à celui des protestants notamment. Sur le fait, on le redira, alors là c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la question du péché, mais ce qui est dit là vaut même pour l'homme après le péché. Il garde, vous voyez, cette capacité de pouvoir, jusqu'à dernier souffle, de vouloir, de pouvoir aimer, ou de pouvoir haïr. Autrement dit, l'homme n'est jamais réductible à ses tendances, à ce qu'on appelle aujourd'hui les pulsions, à son milieu culturel, puis à toutes les influences du milieu dans lequel il vit. Il n'est jamais irréductible. Bien sûr qu'il y a des facteurs explicatifs qui permettent de rendre raison de tel ou tel comportement. Et ça, les avocats ou les juges de gauche sont spécialistes pour dire oui, mais regardez, il est dans une famille très chaotique, et puis il a eu un père qui battait sa mère, et puis il a eu ça, et puis donc c'est normal, il n'a pas le choix, quoi. Bah si, il a le choix, c'est pour ça qu'on le juge. Il y a des circonstances atteignantes. Mais, voilà, l'être humain reste toujours fondamentalement libre, même si faire bon usage de cette liberté, notamment ne pas mentir, ne pas voler, ne pas piquer la femme de son voisin, ne pas être injuste et vite. Bon, mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas... Et on verra pourquoi.
Excusez-moi, quel est le rapport avec les protestants ?
Ben les protestants pensent que le péché originel a détruit la nature humaine et qu'ainsi, il n'y a plus vraiment de liberté. L'homme est réduit globalement à subir sa nature. C'est pour ça que Luther dira « pêche, 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 du moment que tu crois ». Pourquoi dit-on que l'homme... Oui, sur la liberté, je voulais ajouter une chose, en disant que oui, la liberté humaine, elle est fondée, comme pour les anges, dans le fait, alors sauf que les anges avant le péché, là longtemps, dans le fait que ici-bas, il n'y a aucun bien qui peut satisfaire totalement notre soif d'être heureux. Alors personne ne choisit de vouloir être heureux, ça on veut tous être heureux. Même celui qui se pend, il veut être heureux, en tout cas il veut être moins malheureux. Donc on agit tous pour le bonheur. Même celui qui dit qu'il agit pour son malheur, son bonheur c'est de dire qu'il agit pour son malheur et son orgueil. Son sens qu'on dit, on agit toujours sous apparence de bien. Même quand on fait le pire des crimes, s'il y a quelque chose qui nous motive, ça peut être uniquement, et ça, on voit ça dans des choses particulièrement diaboliques, la volonté, le désir de transgresser. Bon. Mais on fait toujours les choses pour une apparence de bien, autrement on ne le ferait pas. Et ce parce qu'on veut tous être heureux. Il n'y en a pas un qui peut dire « moi je veux être malheureux pour être malheureux ». Et ce qui fait donc qu'on est libre, c'est que sur Terre, il n'y a rien qui comble totalement notre soif d'être heureux. Autrement, on irait tous au même endroit. Hein. La personne qui dit « ah, moi, je suis pleinement heureux, plus besoin de rien ». On veut toujours ce qu'on n'a pas et on veut toujours plus que ce qu'on a. C'est bien le signe que sur Terre, il n'y a rien qui nous comble absolument. Et c'est pour ça que le vrai athée n'existe pas. En tout cas, en pratique, il n'existe pas. Parce qu'on court tous après, soit le vrai Dieu, soit après une idole. Vous voyez, entre le moine et le débauché, il y a un point commun, ils cherchent le bonheur, très différemment. Ils n'ont pas le même dieu, il y en a un, ça va être les femmes, l'alcool, et puis l'autre, ça va être le vrai bon dieu. Bon, très bien. Mais ils ont bien un point commun, celui de chercher le bonheur. Et comme sur Terre, personne ne peut avoir immédiatement l'évidence qu'il l'a trouvé, parce que même pour le catholique, la vie peut être très pénible, eh bien, il y a possibilité, si on use mal de son intelligence et qu'on enchaîne sa liberté par des addictions et autres, ben, y a possibilité de dévier du vrai bonheur. C'est sûr, je ne dis pas le contraire. Mais comprenez bien que la liberté humaine, c'est quoi ? Plutôt le libre arbitre, contrairement à la liberté animale, parce que ce n'est pas juste une liberté d'action, vous avez compris. Ce n'est pas ça qui qualifie la liberté humaine. C'est le libre arbitre intérieurement. Après, la mise en action, c'est autre chose. Ce qui fait que l'homme est libre, contrairement aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, voilà, c'est qu'il a une indifférence par rapport à tout ce qui l'entoure, par rapport à toutes les créatures. Il n'y a rien qui totalement le satisfait pleinement. Vous voyez ? De même l'hésitation que peuvent avoir des amoureux à se marier. C'est qu'il y a toujours une part soit de défaut, soit même quand il n'y a pas de défaut, de limite. Personne n'a la bonté même, et la perfection sans limite. Vous voyez ? Donc même il n'y aurait pas eu de péché originel, il n'y aurait que des êtres bons. Bah oui, mais ça ne nous aurait pas comblé complètement, parce qu'il y aurait toujours un hiatus entre notre soif d'être heureux de façon infinie, et puis... les biens qui se proposent à nous. Et c'est ainsi que, du coup, on dira que le propre du libre-arbitre, le propre de la liberté, c'est d'être cette qualité de la volonté humaine permettant de s'auto-déterminer à choisir les moyens en vue du but qui s'est fixé. Ce n'est pas le but, c'est le bonheur. Oui, mais il y en a qui mettent le bonheur en différentes choses. Donc celui qui met le bonheur dans son argent, bah, il va... choisir les moyens qui lui semblent les meilleurs pour avoir le plus d'argent. Voilà. Au ciel, on ne sera pas libre. Quand on sera en présence de celui qui est la bonté même, la bonté infinie sans limite, on ne pourra pas vouloir autre chose. Non pas qu'on sera forcé de rester au ciel. Maintenant, vous n'avez plus le choix, il ne faut plus sortir, c'est fini. Non, mais c'est parce que devant la bonté même qui nous satisfera complètement, on ne pourra pas vouloir autre chose que de rester là où on est. Vous voyez, donc la liberté, c'est quelque chose qui est propre à celui qui n'est pas en présence dans la vision de Dieu. Donc pour nous, celui qui est ici-bas, quoi. Ben ça, on peut le démontrer, vous voyez, on peut le démontrer comme ça. Hein. On peut le démontrer comme ça. Ça tombe à le fait, d'ailleurs, de cette façon-là. Pourquoi dit-on que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ? Notez qu'il y a image et ressemblance, et que c'est pas une tautologie. Hein. Deux choses un peu distinctes. On a mélangé aujourd'hui, et ça a des conséquences qui sont pas anodines, et on va le dire pourquoi. On dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, dans l'idée de ressemblance, il y a une similitude beaucoup plus importante que l'image, qui peut être une pâle copie. On dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que l'âme humaine est spirituelle et raisonnable, libre dans ses actes, capable de connaître et d'aimer Dieu et de jouir de lui éternellement. Et ses perfections sont en nous un reflet de l'infinie grandeur du Seigneur. Donc il faut bien dire que l'homme est à l'image de Dieu en raison de ça, de son âme. Et on précisera en principe qu'il est, mais il ne le fait pas là ici, mais qu'il a sa ressemblance par la grâce. C'est la grâce sanctifiante donnée à Adam et Ève, redonnée aux descendants d'Ève au baptême, qui rend similaire à Dieu, puisque la Trinité habite dans celui qui a cette grâce. Mais tout homme, même s'il n'a pas la grâce, il est à l'image de Dieu. Car tout homme a cette capacité de connaissance et d'amour que Dieu a. Alors, de façon beaucoup plus limitée que Dieu, hein. Mais il y a bien un point commun. Oui, c'est pour ça que quand on essaye de comprendre qui est Dieu et surtout le mystère de la Trinité, on ne doit pas prendre des images matérielles. On ne doit pas partir de réalité matérielle, du trèfle ou du couple humain. Ni de grosses bêtises, beaucoup plus de bêtises que de vérité en prenant ces images. On doit partir de la mens, de l'esprit humain. Donnez-vous hein, intelligence, volonté, mémoire. Bon. Et pour cause, parce que comme Dieu est Dieu, il ne change pas. Qui dit changement dit qu'il pourrait perdre quelque chose ou acquérir quelque chose qu'il n'avait pas, donc il ne serait pas Dieu. Donc si Dieu ne le change pas, il ne peut pas être matériel. Parce que le propre de la matière, c'est d'être sujet au changement parce que composé de contraires. Donc si Dieu est Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il n'est pas matériel. S'il n'est pas matériel, on n'est pas à son image par notre corps. Mais par notre âme, dans ce cas-là de spirituel, donc capacité de connaissance intellectuelle et capacité d'amour spirituel. Donc parce que l'âme est spirituelle, raisonnable. Vous voyez, c'est une grande limite dès le départ de la touche du corps de Jean-Paul II. C'est de vouloir voir dans la sexualité conjugale l'image de la trinité des personnes. Précisément parce que le propre de l'homme, c'est pas sa sexualité. Alors la façon de l'exercer, elle est quand même bien singulière, elle n'est pas celle des animaux, bien sûr. Mais la reproduction sexuée, c'est pas le propre de l'humain. Donc c'est pas là qu'on peut voir l'image de Dieu. Qui n'a pas de corps. D'accord. Bon. Parce que l'âme humaine est spirituelle et raisonnable. Alors, raisonnable, donc spirituel, c'est pour dire immatériel. Raisonnable, c'est pour dire le côté discursif par rapport aux anges, vous voyez. Ils auraient pu dire et intelligente. Oui, mais raisonnable, c'est pour dire. Voilà, la raison, c'est ce qui permet. Par de la raison raisonnante, hein, de raisonner. Vous voyez. Donc c'est le fait que notre connaissance, elle va d'une connaissance universelle à une connaissance moins universelle, ou d'une connaissance plutôt particulière à une connaissance plus universelle. Enfin, elle va de concept en concept. Vous voyez. Elle découvre progressivement d'une connaissance, elle va à une autre connaissance par le biais de jugement, ce qui forme des raisonnements. Voilà. Libre dans ses actes, dans la façon dont je vous l'ai dit, même celui qui est en prison, il est libre. Capable de connaître et d'aimer Dieu, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, et de jouir de lui éternellement. La jouissance indique cet état spirituel de plénitude en présence du souverain bien. Il n'y a rien d'autre qui peut combler totalement, définitivement, la soif d'être heureux que Dieu lui-même. Éternellement. Alors éternellement, là c'est pour, on devrait dire, si on est précis, sempiternellement, pour dire sans fin. On reste dans le temps même quand on est au ciel. Ce qui n'est pas le temps de nous, hein, mais qui a un temps, puisqu'il y a des mouvements distincts, et donc il y a un avant et un après. Il n'y a que Dieu qui est absolument éternel, c'est hors du temps. Bon. Mais l'éternel, ça veut dire qui n'a pas de fin. Ce bonheur n'aura pas de fin. Et ces perfections sont en nous un reflet de l'infinie grandeur de Dieu. Alors toutes les perfections de tous les êtres sont des reflets de la bonté de Dieu et de sa grandeur. Mais bien plus chez l'humain, justement, en raison de son âme, que chez les autres êtres sur cette terre. Libre dans ses actes intervient après raisonnable, vous voyez. La liberté, plutôt le fait d'être libre, c'est une qualité de la volonté qui est propre justement à l'homme en raison de sa intelligence, qui saisit justement le fait que Dieu est tout l'être et que les autres ne sont pas tout l'être, mais un reflet parmi d'autres de sa perfection. Et donc, saisissant cela, il le veut en soi. La connaissance de celui qui est la cause de toutes les perfections et l'amour de celui-ci. Vous voyez ? C'est en ce sens qu'on parle d'un désir naturel, conditionnel, inefficace de voir Dieu. Il y a un désir de connaître et de voir celui qui est la cause de tout ce qui existe. Vous voyez ? Bon. Mais donc cette liberté, après, de prendre les moyens pour arriver à ce bonheur, et à ce bonheur, en principe, donc dans le vrai Dieu, mais autrement dans les faux dieux que sont l'argent, le pouvoir, les plaisirs, eh bien, implique justement cette liberté, cette capacité d'autodétermination. Vous voyez ? Il n'y aurait pas de connaissance, il y aurait pas de capacité de connaissance universelle, il n'y aurait pas de liberté. Ce qui fait que je puisse connaître, il n'y aurait pas de capacité de connaissance de l'être, mais simplement d'image, à travers des perceptions. Eh bien, il y aurait, comme les animaux, il n'y aurait pas de liberté. Ce qui fait qu'on est libre, c'est qu'on puisse anticiper par la raison ce qu'on n'a pas déjà, afin de prendre les moyens pour eh bien, obtenir ce qu'on désire. Et ce désir, il est là, spirituel, il y a la connaissance qu'on a eh bien, de la cause de tout être. Ou qu'on peut avoir, en tout cas, de la cause de tout être. Autrement dit, pour dire des choses très simplement, on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc la connaissance précède l'amour.
Pour Dieu.
En général.
Et pour Dieu.
Pour Dieu.
Un Dieu, on n'est pas en capacité de...
On ne peut pas l'aimer si on ne le connaît pas. Au moins le connaître via ses créatures, via l'univers. Ah oui. Ça. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Il faut au moins le connaître, au moins dans son existence.
Dieu, on a quand même une connaissance qui est partielle.
Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Si on peut déjà l'aimer sur Terre, c'est précisément parce qu'on le connaît un peu, partiellement. D'abord par notre raison qui nous dit que ce monde est une cause, puis par la révélation.
Mais les personnes qui, justement, disent qu'on peut le connaître...
Ben, ça, on en reparlera. Là, on revient sur un autre cours qui était lié à l'existence de Dieu. Mais... Voilà, on peut au moins connaître avec certitude, l'Église l'enseigne encore une fois dans Vatican I, le fait qu'il existe. Au titre de cause de, tout ce qui, de tous les autres êtres. Et donc rien que ça, c'est, comment dire, ça donne une possibilité à l'homme de l'aimer. D'un amour naturel, hein, pour celui qui n'a pas la grâce. Bon, le reste, on pourra en reparler, mais ça renvoie à d'autres cours par rapport à Dieu. En quel état Dieu a-t-il créé nos premiers parents, Adam et Ève? Dieu a créé Adam et Ève dans l'état d'innocence et de grâce. Mais bientôt, ils en déchurent par le péché. Dieu a créé Adam et Ève dans l'état d'innocence. Donc pour bien dire qu'une autre chérie, qui n'avait rien de nocif, hein, si on veut traduire mot à mot, il n'y avait rien de mauvais en lui. Et non seulement il n'y avait rien de mauvais en lui, alors là le mauvais étant à prendre comme il n'y avait rien qui pouvait le faire souffrir et il n'y avait rien qui pouvait être désordonné. Il n'y avait aucune complicité, il n'y avait rien qui en lui était complice avec un quelconque désordre. Désordre notamment qui est le péché. Hein ? Donc état d'innocence. Et de grâce. Grâce pour dire que, en plus d'être innocent de tout mal, d'être affecté d'aucun mal en son être, en son âme, en son corps, en plus de cela, il était en état d'amitié avec Dieu. D'amitié permise par cette grâce qui le rendait semblable à Dieu, précisément. Et on le voit dans la Genèse, il parle à Dieu comme un ami. Il lui est familier. Mais bientôt, il les en déchire par le péché. Pour bien dire que le péché nous fait tomber en deçà de cet état de grâce et d'innocence, et on verra même en deçà de la nature initiale, qui est blessée, qui est abîmée, en une idée de chute. Donc ça suppose, donc ça implique que tout le mal, qui existe, qu'il soit, enfin, en tout cas que le mal moral, pour que c'est clair par rapport à l'innocence, hein, le mal de péché, et puis donc du coup le mal de peine qui en suit, hein, le châtiment, était exclu de la création. Et spécialement donc d'Adam et Ève. Ça tombe bien, puisque Dieu étant bon, en soi, il ne peut pas être cause d'une quelconque malice. Dieu est innocent de tout mal, et ce par nature. Il ne peut pas en être autrement, autrement. L'homme, il était innocent dans son état initial, mais malheureusement, il a pu en déchoir. Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu ne fit-il pas d'autres dons à nos premiers parents ? Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu fit à nos premiers parents d'autres dons qu'ils devaient transmettre à leurs descendants, avec la grâce sanctifiante. C'était l'intégrité, c'est-à-dire la parfaite soumission des sens à la raison. L'immortalité, on comprend ce que ça veut dire, le fait de ne pas mourir. L'immunité de toute douleur et de misère, ce qu'on appellera l'impassibilité. Et puis la science proportionnée à leur état. Parfois on parle de science infuse, mais on verra pourquoi ils disent pas ça. Je m'arrête donc à cette question-là, puisqu'après on verra la question du péché originel plus tard, la fois d'après. Mais je veux quand même terminer sur cette question-là pour pas justement que ça vous empêche de comprendre ce qui suivra. Outre l'innocence et la grâce sanctifiante. Donc l'innocence, c'est le fait, encore une fois, de n'être atteint d'aucun mal, et donc un mal moral, d'aucun péché, d'aucun amour désordonné, de soi, des autres ou de Dieu. Et la grâce sanctifiante, c'est le don le plus important. La grâce sanctifiante, c'est ce par quoi je ressemble à Dieu, ce par quoi Dieu habite dans mon âme, ce par quoi je peux mériter le ciel. C'est reposer un acte qui me permette d'avoir un certain droit, une récompense infinie. La vision même de Dieu telle qu'il est. Donc la grâce sanctifiante, c'est la plus chose, la chose la plus importante. Mais en plus de ça, il y a d'autres dons qu'on appelle des dons préternaturels. C'est-à-dire des dons qui sont rajoutés à ce qu'est l'homme, une âme et un corps, et qui sont en même temps inférieurs à la grâce. C'est-à-dire que ce sont des dons qui ne font pas participer directement à la vie de Dieu, qui restent liés à notre état de créature. Et là, en plus, à notre état de créature corporelle, parce que les anges n'avaient pas ces dons. Et pour cause. Un ange n'ayant pas de corps, il n'a pas besoin d'avoir le don d'immortalité. Bon. Donc là, on parle de dons préternaturels, de dons qui se situent entre la nature humaine composée d'un corps et d'une âme, et la grâce sanctifiante qui nous rend enfants de Dieu, et qui fait que Dieu habite en nous, dans notre âme. Eh bien, entre la nature humaine et la vie de Dieu partie par la grâce, il y a des cadeaux que Dieu nous a faits, qui ont été perdus, on le verra la prochaine fois par le péché, qu'on appelle préternaturels, pour dire, voyez, au-dessus de la nature, mais pas surnaturel, parce que pas de la nature de Dieu. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Alors, il y avait quatre dons. L'intégrité. Le fait qu'on avait... La sensibilité était parfaitement soumise à la raison. Et souvent, on dit, les passions, c'est mauvais. Ben non, c'est pas mauvais, les passions. Ces mouvements spontanés de la sensibilité face à un bien ou un mal. La colère, la joie, la haine, le désir, la crainte. En soi, c'est ni mauvais ni bon, c'est des réactions spontanées de la sensibilité. Donc, en soi, c'est neutre. Mais pourquoi on dit que souvent on a tendance à dire que c'est mauvais ? Parce que précisément, ça nous entraîne à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait sans ces passions. Et on dit que c'est mauvais parce que c'est mauvais à l'homme d'agir indépendamment de sa raison. Parce qu'agir humainement, ça suppose d'agir en connaissance de cause et souverainement. Et quand les passions prennent le pas sur la raison, ça fait des catastrophes, on le sait bien, et ça nous fait agir comme des animaux. Il n'empêche que les passions en soi sont bonnes, et elles nous aident justement à persévérer parfois justement dans le bien, à mettre plus d'enthousiasme, donc ça, elles sont bonnes en soi. Mais c'est vrai que, voilà, on les associe souvent à des choses mauvaises parce que justement, elles ont tendance à dépasser la raison. Eh bien, du temps d'Adam et Ève, non seulement les passions ne devançaient pas la raison, parce qu'il était innocent de tout mal, et c'est un mal en soi que la passion devance la raison, par exemple la colère, avant même que j'ai voulu me mettre en colère et qui arrive, spontanément parce que sa tête ne revient pas, bah c'est un mal en soi. Donc ça, l'état d'innocence faisait qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Mais en plus, avec le don d'intégrité, la colère était parfaitement maîtrisée pendant toute la colère. Juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. Alors vous me direz, mais contre qui on se serait mis en colère ? Je ne sais pas, peut-être... et peut-être, je ne sais pas, contre les démons, par exemple. Voilà. Le Christ dans l'Évangile se met en colère contre les vendeurs du temple. Sa colère est sainte. Elle n'excède jamais la raison. Il est maître de lui-même complètement. Bon, on peut dire ça pareil pour la passion de l'amour, hein. C'est très clair, de la crainte. Bon, voilà. La crainte peut être très, très utile, justement, à rester prudent. Et quand la crainte dicte mon agir, c'est là que je fais pure bêtise et que je finis dans le précipice. Parce que je panique et donc j'arrête d'analyser la situation. Eh bien, l'intégrité fait que j'aurais jamais été devancé ni par la crainte et puis que j'aurais gardé la maîtrise de la crainte, même dans la situation dangereuse dans laquelle je me maintenais. Donc c'est quand même ça, c'est un don super, quoi. L'intégrité, ça c'est... Oui. L'immortalité. Le fait de ne pas mourir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas été composé de matière. En soi, on restait destructible hein, de par le fait qu'on soit composé de matière. Un cercle carré, c'est une contradiction. Un corps immatériel, c'est une contradiction. Donc, en soi, le fait d'avoir un corps fait qu'on est matériel et qu'on est en soi destructible. Mais le don d'immortalité faisait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous nuire au point de nous enlever la vie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc déjà, parce que spontanément, on aurait évité toute situation qui nous mène à la destruction, et puis les éléments extérieurs n'auraient pas pu nous atteindre au point de nous détruire. C'est ça que ça veut dire. Enfin, de nous détruire, de séparer le corps de notre âme, du coup. l'immunité, donc c'est plutôt l'impassibilité, le fait qu'on n'aurait pas ressenti de douleur affective, sensible ou physique, et que du coup on n'aurait pas de maladie, de dysfonctionnement, ni de l'intérieur de notre corps, ni de l'extérieur. C'est aussi pratique. Vous voyez probablement que ça suppose qu'il y avait une pleine maîtrise des événements extérieurs, notamment vous voyez, des lions, hein, c'est un peu comme les dompteurs de zoo, le lion au bio-dos à l'œil. On a l'impression spontanément, alors qu'il l'a dressé pendant des heures et des heures, et bien spontanément l'homme il aurait eu cette relation avec les événements, les choses qui l'entouraient. Il est l'intendant de ce grand jardin, et sans en être le chef, il a les prérogatives du chef pour l'organiser pour le bien de l'humanité, et donc il n'a pas à craindre les éléments extérieurs. Est-ce que la gazelle aurait été mangée par le lion? Ça probablement, mais c'est une querelle entre Francis et Tommy, je ne tranche pas, parce qu'il n'y a pas de mal moral en soi, qu'il y ait des êtres vivants qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et il y a un équilibre, on le sait bien, qui est permis par justement ces chasses et ces. Voilà. Ça, c'est une autre question. Là, je parle de l'homme. Et puis, l'immunité de tout, donc l'impassibilité, et la science proportionnelle au rétal. On parle souvent de science infuse. Alors, vous savez que le mot science infuse, il ne signifie pas l'omniscience. Ça, c'est propre à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui sait tout sur tout. Et ça, ni l'ange ni l'homme ne l'a jamais eu. La science infuse, le mot infuse, ça qualifie le mode d'acquisition du savoir. Et précisément, le mot science infuse s'oppose à science acquise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et Ève, sans la science infuse, pour Adam et Ève, sans tout connaître comme Dieu, ils avaient toutes les connaissances dont ils avaient besoin pour vivre humainement, et pour éduquer correctement leurs enfants. Ça tombe bien, ils n'avaient pas de parents et ils n'étaient pas éduqués. Vous voyez? Donc pour transmettre une éducation et une langue, il fallait qu'ils aient une série de connaissances qu'ils n'avaient pas acquises par eux-mêmes, mais qu'ils avaient dans leur tête, si je puis dire. Alors après, c'est contesté de savoir si ce don-là aurait été transmis tel quel aux descendants. Parce que certains disent ce don-là se justifiait que par la situation de ces enfants, Adam et Ève, qui n'avaient pas de parents. Alors que pour le reste, ils ont eu des parents. Bon, donc je ne tranche pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent sens proportionnel à leur état. Ils n'y tranchent pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, nous verrons la question donc, du péché originel. Mais avant de voir cette question délicate, il nous faudra dire un mot de l'évolution et de la théorie darwinienne. Qui semble se substituer à celle de création, donc, et qui semble s'opposer à ce qu'on vient de dire, et puis qui empêche après de comprendre le dogme du péché originel. Donc je serai obligé d'insérer un excursus au moins d'un quart d'heure, 20 minutes, sur la théorie de l'évolution. J'aurais dû le faire ce soir, puis le temps est passé trop vite. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions ou des objections? Ceux qui veulent après discuter le point, plutôt en particulier, mais est-ce qu'il y a spontanément des objections importantes ou des questions vraiment liées à ce que j'ai dit? À la compréhension de ce que j'ai dit.
Parce qu'on ne peut pas vouloir ce que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut désirer, être attiré par ce qu'on ne connaît pas?
Il faut toujours un minimum de connaissances, même dans l'ordre de la connaissance sensible. Pour que l'animal se jette sur sa proie, il faut au moins qu'il en ait l'odeur, il faut au moins qu'il en ait un aperçu, il faut au moins qu'il en ait une perception minimale, quoi. Là, ce que je voulais dire, c'est que pour rechercher Dieu comme son but, qui peut nous rendre complètement heureux, il faut au moins connaître qu'il existe. Mm-hmm. Voilà. Et ce qui fait qu'on est libre, c'est qu'on peut anticiper la fin pour prendre des moyens qui vont nous conduire à quelque chose qu'on n'a pas encore atteint. Mm-hmm. Vous voyez ? Le propre de notre intelligence, c'est d'anticiper et d'avoir présent à l'esprit un but qu'il n'a pas encore atteint pour prendre les moyens lui permettant d'accéder à ce but. Et c'est là où je dis que la liberté humaine, qui est une liberté qui se justifie dans le fait que chacun est souverain par rapport aux moyens visant à atteindre son but, qui est le bonheur, et bien précisément, l'homme, de par le fait qu'il connaisse ce qui peut le rendre heureux, alors à tort l'argent, les femmes, et voilà, à raison le vrai Dieu, et bien il peut du coup se retenir de prendre tel ou tel moyen qui lui semble pas le bon moyen, justement, et prendre plutôt tel autre, pour arriver à ce but. Et c'est logique, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas, il n'y a pas de volonté libre s'il n'y a pas d'intelligence. Non seulement parce que je ne peux pas vouloir ce que je ne connais pas, mais en plus de ça, pour qu'elle soit libre, cette volonté, il faut que j'ai présent à l'esprit ce que je veux atteindre. Si je n'ai pas présent ce que je veux atteindre, je me laisse dicter justement par mes pulsions spontanées ou par ce qu'on me dit de faire. ou parce qu'on dit pour qui il faut voter, ou voilà. C'est plus mon intelligence, c'est celle des autres qui va me diriger. Bon. C'est ça que je voulais dire. Je l'ai peut-être mal dit, effectivement, mais c'est ça. Voilà.